Bonjour Daniel, comment vas-tu ?
Assez bien.
Ça va. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste ton association des risques majeurs de l'environnement ?
Voilà. Alors, l'IFORM, l'Institut français des formateurs risques majeurs et environnement, a été créé il y a déjà très longtemps. Et le but prioritaire, c'est de développer la culture du risque majeur naturel, technologique et nucléaire. Alors, le risque majeur, il faut revenir au départ. Le terme a été employé par Arun Taziev en 1971. C'était un volcanologue, hein, très réputé, qui a été le premier secrétaire d'État à l'environnement, justement. Et lui avait une phrase sacrée: tout citoyen doit connaître les risques qui le menacent, les risques majeurs, toujours les mêmes, aussi bien technologiques, naturels. C'est un vulcanologue, hein, donc c'est normal. Et à partir de là, il a fait une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, de façon à développer très vite chez les jeunes, parce que lui comptait sur eux, pour pouvoir promouvoir cette connaissance et adapter les bons gestes et la bonne prévention et aussi tous les aspects curatifs lorsqu'il y a un risque.
Est-ce que tu peux nous dire quand l'association a été créée ?
Alors, au départ, ce n'était pas cette association-là. Nous dépendions directement du ministère de l'Environnement de l'époque, enfin du secrétariat général. Donc, tout partait de là, c'est-à-dire les formations, la fabrication d'outils. C'était en lien direct avec ce secrétariat d'État. Et à partir de là, moi j'ai été une des premières appelées, parce que les recteurs ont dû envoyer se former une, deux, trois personnes, trois professeurs. C'était souvent des naturalistes, forcément. Et à partir de là, on a créé ce réseau. On a été guidés avec eux, on a travaillé avec eux pendant un certain temps, et puis à un moment donné, le ministère nous a demandé de devenir une association de loi 1901. C'est à partir de là que on a dû déjà après trouver de l'argent. Enfin, c'était un peu moins sécurisant quand même, soyons honnêtes.
À quel risque sommes-nous exposés dans la région Picarde ?
Alors, dans la région Picardie, comme un petit peu... Alors, actuellement, il faut voir, parce qu'il y a une évolution, tu le vois bien.
Oui. Hein.
Dans cette région-là, c'est quand même les inondations, les submersions marines. Ça, c'est sûr. Le recul du trait de côte, par exemple. Des tempêtes, on a aussi des tempêtes. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, quand même des zones industrielles avec des Seveso, hein, avec des usines à haut risque, hein, Seveso 2 par exemple, et qui demandent une préoccupation constante sur la sécurité à la fois des personnes dans l'entreprise et puis aussi de l'environnement, des quartiers environnants en particulier. Ça peut être du nuage toxique, ça peut être des explosions, on a connu ça un petit peu partout en France aussi. Hein.
Et dis-moi, à qui doit-on s'adresser pour la gestion d'un de ces risques majeurs ?
C'est la préfecture, un service des risques à la préfecture qui manage tout ça. La prévention, l'identification des risques, le suivi d'une crise, l'après-crise. Mmh. Tu vois, ça, et là, on vient de faire ils viennent de réaliser, on était toute une bande, et moi j'étais très très contente de participer au dossier départemental des risques majeurs. Parce que c'est je te donnerai l'adresse, enfin on peut aller sur le site de la préfecture, on fait DDRM, et là, il vient de sortir, il y a très peu de temps, et il répertorie tous les risques de la Somme, et ce qu'il faut faire avant, pendant, après, les acteurs. C'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un condensé très très intéressant et très pédagogique, pour le coup vraiment très pédagogique, tu vois, et illustré par des photos pour que les gens... Alors tu as aussi toute la liste des communes de la Somme avec les différents risques auxquels ils sont exposés ou qui ont déjà eu, par exemple, on parle beaucoup des déclarations de catastrophe naturelle, tu sais, on en parle énormément. Quand tu as, par exemple, même Conti, il y a eu un...
Oui. La tempête de l'année dernière,
voilà,
par exemple.
Voilà,
oui, tout à fait.
Donc, à partir de là, enfin, c'était pas une tempête, c'était une...
C'était une tornade.
Il y a des dégâts matériels mais épouvantables, mais il n'y a pas de victime. Donc, tu as tout ça. Tu peux savoir, je suis dans telle commune, j'ai eu tel risque, j'ai été déclarée catastrophe naturelle tant de fois. Enfin, c'est très précis.
Quel type de service de secours l'État met en place pour faire face à une inondation ou un effondrement de terrain?
Oui, il y a des effondrements aussi, il ne faut pas les oublier ceux-là, parce qu'on en a pas mal quand même dans la région. Hein. Donc, il y a quelquefois vont faire des digues, ce qui n'est pas une solution, parce que derrière une digue, on n'est pas toujours en sécurité, loin de là.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une digue?
Une digue, c'est une espèce de muret, assez haut, si tu veux, le long d'une rivière, pour la bloquer, pour l'empêcher de déborder.
D'accord.
Hein? Mais tu as aussi d'autres structures qui peuvent être mises en place, et même au niveau du citoyen. Par exemple, on appelle ça des bâtards d'eau, bloquer sa porte avec du bois, du métal, c'est beaucoup mieux, avec, dans des glissières, et ça empêche l'eau de rentrer dans ta maison. Le but, c'est de bloquer l'eau dans la maison. Je n'ai pas bien répondu à ta question, et je m'en excuse. C'est quels sont les services? Eh bien, c'est tout un travail en commun entre les sapeurs-pompiers, la sécurité civile. Tu as aussi maintenant, on incite les communes à créer autour du maire une réserve communale, c'est-à-dire des gens qui sont branchés risque majeur et qui peuvent arriver rapidement pour entourer le maire, l'aider, le conseiller et puis agir aussi.
Quel rôle majeur peuvent avoir les citoyens du coup lors d'une catastrophe due au climat? Comme une inondation, un effondrement de terrain, ou même des feux de forêt, même s'il y en a très peu ici.
Oui. Alors nous, on n'a pas de feux de forêt, mais on a quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est les feux de culture. C'est-à-dire que des étincelles venant d'un tracteur ou autre peuvent mettre le feu, tu vois, à un champ. Et quelquefois, ça peut avoir des conséquences assez graves. C'est pour ça qu'on ne peut pas se démunir complètement de nos sapeurs-pompiers pour aller porter main forte dans le sud, par exemple, on a toujours... Et on commence à avoir des petits incendies quand même, de taillis, Si, ça commence à monter hein, avec les chaleurs, et puis actuellement, si, c'est à craindre. Moi, je mets tout mon espoir dans votre jeunesse, parce que je suis sûre qu'il y a plein de jeunes, compétents, volontaires, et c'est pour vous une sauvegarde. Parce que quand on agit, on se désangoisse. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on compte. Nous, on ne peut plus compter que sur vous. Nous, c'est fini. Notre vie est terminée. On peut transmettre, si, moi, je crois beaucoup, à la transmission de cette mémoire, du vécu, mais ça ne suffit pas.
C'est important.
Mais voilà, il faut aussi. Hein. Il faut que toutes les générations s'associent pour prendre cette planète à bras-le-corps.
Ici, à Amiens, donc, comme on disait, les plus gros risques auxquels nous devons faire face, ce sont donc les inondations ainsi que les mouvements de terrain. Quelles mesures sont prises par la municipalité en termes de prévention, de gestion, de surveillance et d'alerte?
Voilà. Alors, la ville d'Amiens a un excellent service des risques qui se trouve à Douai d'ailleurs. Hein, et leur but, c'est de contrôler la moindre mouvement de terrain, d'aller quand c'est possible, regarder un petit peu ce qui se passe dans les galeries, là où on sait qu'il y a des zones très sensibles. On a eu l'expérience derrière l'hôtel de ville il n'y a pas très très longtemps, tu sais, ce gros effondrement. Et ça, c'est très très bien surveillé. C'est vraiment bien. Et puis aussi, sur les inondations, une surveillance des inondations très très sérieuse. Alors, pour cette mémoire des inondations, justement, il y a des petites plaques qu'il faut connaître, qui repère le niveau maximum de l'eau quand il y a une inondation, tu vois. Donc tout ça, c'est fait, mais on passe devant, on ne le regarde même pas.
Non.
On ne le sait pas, ça ne t'intéresse pas. Et c'est fait pour marquer les esprits, pour dire, si, ça existait, et puis ça existera encore, malheureusement.
Qu'est-ce que tu peux nous dire en ce qui concerne les répercussions des installations industrielles ainsi que les transporteurs de carburant ou autres matières dangereuses pour la planète?
Oui, alors ça concerne aussi le public, si tu veux. Euh, tu, Tu as certainement déjà suivi un camion avec des petits losanges orange ou jaune ou des petits symboles, etc. C'est très important parce que ça, ça te dit c'est inflammable, c'est toxique. Tu vois, on sait déjà, il y a même des numéros, on peut savoir le produit. Mmh. Et ça demande tout simplement de la part de toi, l'automobiliste classique, ben, d'être doublement vigilant, de façon à ne pas créer un accident avec ce genre de camion qui est sur la route. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup automatiquement sur toutes les routes, les petites routes, les grandes routes, les autoroutes. Parce que là, il y en a du passage de substances toxiques.
Mmh, partout.
Et puis, tu me posais la question aussi sur les entreprises.
Pour les installations industrielles.
Alors, les installations industrielles sont de... Enfin, il y a deux soupapes de sécurité. Il y a d'abord, dans l'entreprise elle-même, des pompiers. Des pompiers de l'entreprise. C'est-à-dire, dès qu'il y a une anomalie, ça retentit, ils sont prévenus, tout de suite, ils interviennent. Et puis, si vraiment ça dépasse le cadre de l'entreprise, là c'est le chef d'entreprise qui va gérer. Si ça dépasse tout de suite, la préfecture arrive avec les sapeurs-pompiers, avec nous on appelait ça les bleus, les blancs, les rouges. Hein, les bleus c'était les gendarmes parce qu'il faut réguler la circulation. Les blancs c'est les SAMU et les rouges c'est les pompiers. Donc tout le monde, il y a des exercices obligatoires dans l'année de façon à être prêt à réagir. Peut pas être pris à l'improviste, c'est pas possible. Non. Tout ça, ça se prépare avec des exercices.
C'est trop dangereux aussi.
Ah ben voilà, et puis il y a des comportements très très importants. Le drame, le pire, c'était à Toulouse, à ZF. Ça a été épouvantable, des jeunes pompiers qui, à l'époque, dans notre réseau, on avait la médecine SAMU qui avait géré ça. Et je t'assure qu'on est allé en Europe pour présenter le travail. Elle pleurait à chaudes larmes de se rappeler tous les morts qu'elle avait dû récupérer, des jeunes sapeurs-pompiers volontaires, par le souffle. C'était le souffle, là.
Juste avec le souffle.
Avec le souffle, oui.
Peux-tu nous rappeler les meilleurs réflexes que les gens devraient avoir chaque jour et comment s'informer auprès de ton association pour ces gestes à prendre ?
Alors, ça, nous, notre association, si tu veux, on participe à des actions comme les villages inondations pour les petits, hein, qui a beaucoup, beaucoup de succès. On en a fait plusieurs dans la Somme, où le but, il y a plusieurs stands, et le but, c'est d'abord d'expliquer qu'est-ce, par exemple, pour les inondations, il y a un terme qu'il faut associer tout de suite, c'est bassin versant. Le bassin versant de la Somme, avec sa nappe phréatique qui remonte, qui descend, parce que nous, c'est très, très long. Parce que c'est un problème de nappe, c'est pas comme dans le Midi, des torrents qui se déversent, puis le lendemain il fait très beau, les gens vous disent « mais si, il fait beau ici, regardez le ciel bleu !» Tandis que nous, c'est des mois de bloquer, et puis après il faut reconstruire, et puis etc. Donc nous, on s'associe, on fait des actions dans cet esprit-là, avec d'autres partenaires. C'est très important. Il faut que ce soit un travail interministériel, si tu veux, aussi bien avec les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les services du risque David d'Amiens, quand on est sur Amiens, pour montrer aux enfants que c'est un travail global et que tout le monde a sa place. Et que lui aussi, il a sa place en faisant passer à ses parents ce qu'il a appris. Il y a un petit stand qui est tout simple, qui est mignon comme tout, qui s'appelle « Fais ta valise ». Et on met par terre, c'est la MEVA qui fait ça, met par terre tout un tas d'objets hétéroclites, hein, alors ils adorent. Et puis après, on leur dit, qu'est-ce qu'on va... Il y a un risque majeur, un risque d'inondation, tempête, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac, dans ta valise? Et à chaque fois, on a des enfants qui nous disent, oh, oui c'est vrai, ma maman, dans le Midi, on les a fait évacuer. Elle n'avait pas ses médicaments. Mon petit frère n'avait pas son doudou. Tu vois, on n'avait pas de gâteau. On avait froid. Et ça ne fait pas venir le danger. Au contraire, ça atténue les conséquences du danger. Et ça a beaucoup de succès. Et puis, quand on peut, on fait dessiner des bas. Avec le littoral Picardie, la baie de Somme, on est en convention. Mmh. Et on fait dessiner des bas. Et dans la salle, il y a toujours des gens qui ont des remarques excessivement pertinentes du vécu. Mmh. C'est le vécu. Moi, je ne crois plus qu'à ça.
Au vécu.
Il y a eu trois grandes périodes sur les risques majeurs. Mmh. Tu vois, La première grande période, c'était l'âge d'or, moi je vais te dire. C'est quand Taziev a dit, allez hop, on lève ses manches, tout le monde s'y met. Et puis sont arrivés les attentats. Mmh. Alors là, ça a changé complètement, parce que le ministère de l'Intérieur nous a pris ce qu'on appelle le plan particulier de mise en sûreté. Et ce PPMS a été détourné, mais tant mieux, il était prêt, il était assez bien adapté, mais il a été adapté aux attentats. C'est-à-dire des gestes tout compte fait complètement différents de la protection des risques majeurs. Il faut se cacher, il faut, tu vois, avec des simulations, avec des exercices. C'est très très important, les exercices. Quand tu te trouves en situation, là, tu comprends vraiment les gestes à faire et pourquoi on les fait. Ça, c'est très important. Et puis, là, on arrive à une troisième phase. Comme le changement, enfin, le dérèglement climatique nous amène beaucoup de soucis quand même, les risques majeurs ressortent un petit peu du tiroir. Et il y a un équilibre qui est en train de se faire dans les écoles. Moi, je parle beaucoup pour les écoles. Hein. C'est d'équilibrer les attitudes, la culture pour les risques majeurs, mais aussi pour les attentats, on ne peut pas les oublier.
Enfin, pour terminer, est-ce que tu as un message personnel à transmettre aux personnes qui nous écoutent ?
Le message, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, surtout pas. Et qu'on est dans un virage, parce qu'une période où on a tant de crises qui s'ajoutent, hein, on a la crise climatique, ça, évidemment, hein, on a des risques de guerre, on a eu le Covid qui n'a rien arrangé non plus. Donc il faut pas baisser les bras et puis s'associer, mais dans un bon état d'esprit, où chacun apporte sa part, chacun. C'est sûr que quand tu es à plusieurs, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions. Et puis c'est réconfortant.
Merci encore Daniel pour ces belles informations vitales pour notre avenir et celui des futures générations.
Écoute, moi je suis ravie de parler avec toi et de m'adresser aux jeunes, parce que tous nos espoirs sont en vous.
Get up off of that thing and try to release. Yeah.